Sud. Chers publics, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez déjà entendu cette rumeur complètement folle? Folichonne! C'est fou, fou, fou! Il y a une rumeur qui court qu'il y a deux langues officielles au Canada. En tout cas, moi, les deux bras m'en tombent. Il y a deux langues officielles au Canada? C'est le français puis c'est l'anglais. L'avez-vous entendu, cette rumeur-là? Parce que ça fait un bout que ça dure, là. C'est en fait depuis même Pierre-Éliott Trudeau, le papa de Justin, il essayait de nous faire croire ça, là. Et mon Dieu, je m'énerve contre mon micro. Il essayait de nous faire croire ça. Canada, deux langues officielles. Autant de considération pour l'une que pour l'autre. Quand on nomme des gens qui s'expriment dans les deux langues. Puis ça, c'était dans le temps, ça. Cette rumeur-là continue à circuler, mais la réalité, c'est plus ça, les amis. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier, vous avez peut-être regardé le gala des Oliviers, vous avez peut-être regardé Sortez-moi d'ici. Tout à l'heure, je vais parler avec Patricia Pancan. Vous avez peut-être regardé le gala des Junos, où on honore l'excellence de la musique canadienne. À Halifax, en Nouvelle-Écosse, hier soir, en direct, sur les ondes de la CBC. Hein? CBC, c'est quand même une station de télévision d'un pays où il y a deux langues officielles. Bien, on n'a pas entendu beaucoup de français. Je dis pas que c'était obligé d'être moitié-moitié, on est d'accord, c'est un gala qui se passe à la CBC puis qui est diffusé, donc, à partir d'Halifax. Mais quand même, il y avait des francophones qui étaient là hier soir. À un moment donné, Charlotte Cardin a dit deux mots. A dit « Je t'aime » à un membre de son équipe quand elle allait chercher le Juno pour meilleur album de l'année. A dit « Je t'aime » à son équipe. À part ça, elle n'a même pas dit « Bonsoir » en français, elle n'a même pas dit « Merci » en français. Tout son discours en anglais, Charlotte. Mais Charlotte n'est pas représentante du gouvernement, fait qu'elle peut bien dire ce qu'elle veut, Charlotte. Mais Pascale Saint-Onge, par contre. Madame Saint-Onge, je vous rappelle que vous êtes ministre du patrimoine d'un pays où il y a deux langues officielles. On va écouter le début du discours de Pascale Saint-Onge, ministre du patrimoine du Canada, hier soir à Halifax.
And Juno Award-winning singer-songwriter William Prince.
Bonsoir, Halifax. What a fantastic room of music fans tonight, celebrating our remarkable talent and presenting this award with you, William. It's truly special, and congrats on your win last night.
Thank you so much.
Alors voilà, elle est ministre du patrimoine. C'est une francophone, Pascale Saint-Onge. Bonsoir, Halifax. Comme, mettons, quand Paul McCartney vient à Québec, il dit « Bonsoir, Québec ». Je pense même que Paul McCartney, quand il vient au Québec, il parle plus longtemps en français que Pascale Saint-Onge ne l'a fait hier soir sur les ondes de la CBC. Pour saluer. Et en plus, elle dit, quel beau parterre, c'est tellement rempli d'artistes talentueux. Mais il y a aussi des artistes talentueux francophones. Madame Saint-Onge, en plus, elle a annoncé 32 millions de dollars pour aider l'industrie de la musique. Pas de danger qu'elle nous l'aurait dit, nous, dans notre langue. À un moment donné, il va falloir retenir des leçons. À un moment donné, il va falloir comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et on a entendu de l'inuktitut, on a entendu du micmac. On a entendu plein de langues autochtones hier soir. On a entendu quelqu'un chanter en Punjabi. On a entendu toutes sortes de langues. Ça, c'était bien important de montrer la diversité canadienne hier soir. Le français. Français. Français, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Le français. C'est, what is that? Who cares about French in Canada anymore? Si vous doutez d'à quel point on se contre Saint-Ciboirise du français dans le reste du Canada, si vous en doutez encore, allez visionner les Junos d'hier soir.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Ah, excusez-moi, y a-tu quelqu'un?
LOL.
Ah, t'es là, Jean-François, excuse-moi. C'est parce que, c'est fear of missing out, là, la peur de... C'est tellement... Y a, d'un coup, qu'il y aurait quelque chose de plus important sur mon cellulaire. Tu veux
ça
nous parler...
Peut,
non, rien, quelque chose de plus important que toi, mon petit chéri d'amour, ben non,
ça,
impossible. Impossible. Donc tu voulais nous parler des écrans. Non, mais parle-moi, je vais faire comme font les ados quand on leur parle. Tu sais, à un moment donné, il faut leur dire, ah non, mais les ados.
Certains adultes, de temps en temps, je sais pas si t'en connais, là, mais moi, j'en connais. Non, mais on en rit, là, mais pour vrai, puis c'est un article de Patrick Lagacé qui m'a amené à aller lire cette étude-là de Jonathan Haidt qui fait fureur présentement aux États-Unis. C'est un psychologue social qui a écrit un article, mais en fait, c'est super bien documenté. Là, c'est une étude sur plusieurs années. Grosso modo, là, en français, ça serait fin du téléphone, éloignez ça de vos enfants. Mm. OK? Et c'est capoté de lire tout ça. Je suis allé lire aussi une entrevue qu'il a fait dans le New York Post. Mm-hmm. Parce qu'il dit que la nouvelle génération, c'est la génération la plus anxieuse et la plus déprimée. Mm. Que depuis les années 2000, ça monte en flèche là, le nombre de gens qui sont obligés de prendre des antidépresseurs, qui pensent au suicide, etc. Là. Des jeunes, là. On parle de jeunes. Et lui attribue ça à tout un changement qu'il y a eu dans les dernières années qui a mené aux écrans. Mais à la base, Sophie, là, c'est parti de où? Mm. C'est parti des parents qui avaient peur pour leurs enfants. Tu sais, jeunes, là, on nous laissait jouer. Là. Moi, je me souviens, j'allais 3-4 rues plus loin en baissant la pédale, puis ma mère, ça ne dérangeait pas pantoute, puis il fallait que je l'appelle en arrivant. Puis, à un moment donné, je revenais. Pas qu'elle se questionnait pas, mais tu sais, c'était de même. Puis là, tranquillement, ils se sont mis à avoir un peu plus peur, nos parents, parce que le monde est devenu moins sécuritaire ou je ne sais trop. Et ça... L'arrivée d'Internet, les ordis, ça allait. L'arrivée du haute vitesse, haute performance et des téléphones et des tablettes et des réseaux sociaux a emmené cette sécurité-là aux parents. Ouais. Parce que sur le coup, là, puis demande à n'importe quel parent qui vont avoir des jeunes enfants prochainement ou qui ont eu, au début, là, c'est « Ah oh, non, les miens, il n'y aura pas d'écran.
Ouais, » ouais.
Oh non. Puis là, à un moment donné, tu fais « Ben, là, je suis occupé, là, tiens, regarde la patte patrouille, puis regarde, tu sais, puis là, hop, les écrans, tranquillement. » Et, dans le fin fond, les parents sont contents parce que quand t'arrives à 13 ans, puis que ton ado est dans ta chambre, dans sa chambre, tranquille, tu sais où il est, il n'est pas en danger, t'as pas besoin de t'inquiéter, ça fait ton affaire et tu lui laisses son téléphone, tu lui laisses son écran. Mm. Mais dans les faits, là, il est peut-être plus en danger, là, que s'il était dans la vraie vie tous les jours.
Voilà. Y a aussi le phénomène, cette sorte de surprotection. Tu sais, avant, là, mettons, moi, je viens d'une famille de 5 enfants, toi, tu viens d'une famille de...
3.
Puis bon, mettons nos parents ou la génération d'avant, ils a des familles de 8 puis de 13, puis tout ça. Ben, tu sais, quand on a 8 puis 13, là... T'en as une coupe, ils se promènent à la rigueur, le plus vieux va prendre soin du plus jeune ou celui du milieu, ou tu sais. Puis quand tu regardes dans la ruelle, ben, tu sais, chez chaque famille, il y a 8 ou 10 enfants, il y a du monde dans la ruelle. Quand les gens ont un enfant, ils ont tendance à tout mettre sur leurs enfants, à vouloir donc les surprotéger, parce que, tu sais, quand t'en as 8, tu dis, bon, il y en a un qui se casse la jambe, c'est pas grave, moi, de toute façon, j'ai pas vraiment le temps de m'en occuper, il y en a 7 autres dont il faut que je m'occupe. Mais quand t'en as juste un, toute ton attention est portée là-dessus. Oui.
Et on finit par leur en acheter des téléphones parce qu'on veut les surveiller, on veut les géolocaliser, on veut qu'ils puissent nous appeler s'il y a quelque chose qui se passe. Mais écoute, les statistiques, c'est incroyable. Présentement, les jeunes Américains, 7 à 9 heures par jour sur leur écran, Sophie, sur 24 heures. Là. Fait que là, ça amène moins de sommeil parce que là, tu te mets là-dessus à 11 heures le soir. Première chose, tu sais, il est rendu minuit et demi. Tu es encore sur ton téléphone. Et lui, ce qu'il dit, parce que moi, je me suis toujours dit, moi, j'avais une Nintendo quand j'étais jeune. Tu sais, des fois, quand on capote avec les écrans, je fais, hey, moi, je jouais avec les écrans. Puis à un moment donné, ma mère dit, OK, là, ça fait une heure, t'es là-dessus, on va dehors. Puis là, il fallait que j'y aille jouer dehors. Mais là, c'est ce qu'il dit, c'est que les jeunes jouent. Mais tu sais, moi, quand je jouais, mettons, à ma Nintendo, j'invitais un ami, des fois deux amis, on se prêtait les manettes, il y avait quelque chose.
Il y avait une
Maintenant, les jeunes se branchent même en virtuel. Fait que donc, il n'y a eu plus aucun contact social. Puis ça va manquer énormément. Il disait même que les jeunes sont plus capables de reconnaître le non-verbal. Tu sais, toi, là, mettons, je te rencontre, là. Je le sais si t'es contrarié, je le sais si t'es... Non, mais tu comprends, tu sais, si quelqu'un est agacé, si quelqu'un veut s'en aller, qui veut mettre fin à la discussion, on est capable, même sans se parler, de sentir ce genre de choses-là. Mais comme les jeunes se voient plus dans la vraie vie, que même quand ils se voient, ils ont souvent, ils se parlent, puis tu le mimes tantôt, là, ils ont leur téléphone d'une main, ils continuent de se parler, ils se regardent pas vraiment, ils ont de la difficulté à reconnaître le non-verbal de quelqu'un. C'est rendu capoté, là.
Oui. Alors, moi, je vais te répondre quelque chose. C'est une citation tirée d'un film. Je pense que c'est une année particulière, je me souviens plus. En tout cas, bon, bref, peu importe. Un parent d'élève qui va voir le prof et qui lui dit tu sais, mon fils a des difficultés à l'école. Et mettons, c'est un film qui date de 1983. Puis mettons que le gars, il s'appelait Grollo. Mm-hmm. Et la prof lui dit, vous savez, votre fils, c'est pas un gros lot. C'est pas un Tremblay, c'est pas un Durocher, c'est pas un... Votre fils, c'est un 83. Donc, peu importe la façon dont vous avez élevé votre enfant, peu importe les valeurs que vous voulez lui transmettre, l'influence que vous pensez avoir sur votre enfant est moins importante que l'époque dans laquelle il vit. C'est une longue introduction pour dire... Nos enfants, c'est pas, tu sais, toi, tes enfants, c'est pas des Barry. Puis moi, mon fils, c'est pas un Durocher ni un Martineau. C'est un 2008 parce qu'il est né en 2008. Bon, ou c'est un 2024 parce que c'est maintenant qu'il évolue. C'est comme ça aujourd'hui. Tu fais quoi? Tu prends ton enfant puis tu le retires des médias sociaux. Tu lui enlèves son cellulaire. Tu l'empêches de jouer. Il va être complètement isolé de ses amis, isolé de son époque. C'est comme ça que ça se passe.
C'est drôle, il explique exactement ça que lui-même a donné à ses enfants parce que tu veux pas qu'ils soient complètement en marge de la société. Toutes leurs amis sont sur les médias sociaux puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, tu plies. Mais il y a quand même moyen de réglementer. Il y a quand même moyen de leur parler de ces dangers-là, de faire en sorte de dire, regarde, cet ami-là avec qui tu joues, invite-le à la maison. Il y a même moyen d'encadrer puis d'en parler. Tu sais, on parle de 7 à 9 heures, là. 7 à 9 heures, c'est énorme, là. Déjà, s'ils peuvent réduire 4 à 5 heures, c'est une chose de donner le bon exemple, nous, en tant que parents, parce que combien de fois on s'entraîne en regardant une série sur une tablette, on prépare à manger, puis il y a quelque chose qui joue sur le comptoir. Nous-mêmes, on est très, très, très dépendants maintenant de nos écrans et de nos tablettes.
J'ai une question pour toi, puis je suis pas du tout dans le jugement. Hein.
Vas-y.
Tu sais, régulièrement, toi puis moi, depuis septembre, on partage des petites tranches de notre vécu, de notre quotidien. Toi, est-ce que tu as une règle à la maison où le cellulaire est interdit à table?
Ouais. Puis ça fait longtemps que c'est comme ça.
OK, ben
puis,
chez nous aussi. Parfait.
À moins là on attend quelque chose d'important mais sinon moi tu verras jamais mes enfants avec le cellulaire à table, puis je vous dis pas qu'ils sont parfaits, puis je trouve qu'ils passent trop de temps dessus, puis je leur rappelle, mais il y a plusieurs consignes comme ça. Quand on va en vacances, quand on a du temps ensemble, si on joue un jeu de société, c'est non, et moi je les force à voir des gens. Voix du monde, parce que c'est ça le plus important, parce qu'il explique que même quand tu veux rentrer, nous là, si on voulait rentrer dans un groupe, mettons qu'il y avait une gang cool à l'école, là on voulait être dans cette gang-là, mais là, il fallait trouver une façon d'aller dans cette gang-là. Ouais. Maintenant, en virtuel, tu peux être dans la gang, tu veux, quand il y en a un qui fait plus ton affaire, tu le bloques,
tu l'éjectes.
Il est plus là, c'est parti. Il disait que particulièrement chez les jeunes garçons, t'es en train de créer un monstre, parce qu'ils jouent à toutes sortes de jeux de réalité virtuelle, mais c'est pas la réalité.
Ben non, c'est
et
sûr.
Ils regardent de la porn sur leurs écrans, et on est en train de faire des jeunes garçons complètement déconnectés de la vraie vie, parce qu'un jour, ça va être la vraie vie. En tout cas, on espère qu'ils vont revenir dedans. Donc, pour vrai, allez lire ça. Jonathan Haidt, H-A-I-D-T. Peut-être que je le prononce mal, je suis pas bon en anglais.
Haidt.
Bon,
peu importe, on va lire.
C'est très intéressant.
Excellent.
Puis si ça vous permet d'avoir ne serait-ce qu'une petite jasette,
une
avec
réflexion.
Vos enfants.
Absolument.
C'est très important. Puis faites-le pour vous aussi.
Attends,
là,
je vais aller tout de suite placer ça sur mes réseaux sociaux.
Oui, mais ça, les réseaux sociaux, on en a déjà parlé parce que là, ça, c'est un tout autre dossier. Pas bon
pour demain.
Le cas. Tu sais, pour les petites filles, les petits garçons.
Oui. Merci beaucoup,
ça,
Jean-François.
Mais ça, on avait déjà parlé ensemble.
Absolument. Puis on risque d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-François.
Bye-bye.
Sophie Durocher.
Passionnée. Cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Toujours un plaisir de recevoir Pierre Curzi, que vous connaissez bien sûr comme comédien, ex-politicien, même ex-commentateur radio. Bref, il a tellement de chapeaux. Mais là, on le reçoit pour son nouveau chapeau de président du jury de la compétition internationale du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke, qui va se tenir du 9 au 14 avril. Pierre, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Ben moi, je vais très bien, mon très cher Pierre. Quand on vous a... Parce qu'il paraît que maintenant, vous êtes un North Atléen qui adore North Atlée. Comment on appelle les habitants de North Atlée?
Ouais, ben c'est la bonne question. Je me pose toujours la question, pourquoi ça s'appelle North Atlée? Pourquoi ils n'appellent pas ça Atlée Nord?
Ben
mais
oui.
Bon, en fait, je ne sais pas comment s'appellent les... Mais nous, Marie et moi, nous vivons à North Atlée depuis 2 ans maintenant. Parce que bon, après la pandémie, bon, ouais. Comme bien des gens, la maison était trop grosse, on avait trop, tu sais, on était deux et on cherchait un lieu. Et on connaissait la région, on connaissait le lac Massawippi parce qu'on a déjà eu un chalet il y a 25 ans ici. Et on aimait beaucoup cette région-là, mais le hasard a fait qu'on a trouvé une maison qui nous convenait à North Atlee avec l'avantage d'être très près du village. Et on cherchait, nous, la vie communautaire. On voulait retrouver un lieu où on puisse aller à pied chercher son pain et puis aller prendre un café, une bière. Et ici, à North Atlee, on est vraiment, nous, collés sur le village. En même temps qu'on est un petit peu, on était chanceux, on est juste assez en retrait pour ne pas importuner d'autres. Et vraiment, quand on descend, on arrive devant le lac. C'est très beau. Et voilà. Alors, on a trouvé notre bonheur ici.
Alors, c'est intéressant parce que donc, vous êtes évidemment pas loin de Sherbrooke. Alors, quand les gens du Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke vous ont demandé d'être président du jury de la compétition internationale, j'imagine que vous avez dit oui assez rapidement.
J'ai dit oui immédiatement. J'ai pas laissé aucun délai parce que l'an dernier, on était allé au festival comme spectateur, mais on avait acheté des passes là, parce que tu peux acheter 5 films ou 10 films. Et moi, j'ai adoré d'abord la qualité de la sélection des films qui sont présentés là, parce que pour la majeure partie, ce sont des films qu'on ne verra jamais ailleurs. Mmh. On les verra pas dans les cinémas, puis on les verra pas non plus sur Netflix ou dans les grands réseaux télévisuels. Donc ça, c'était bien. Puis j'ai aimé aussi l'espèce d'atmosphère. Tu te souviens, je pense que tu te souviens du Festival du film du monde de Montréal.
Ben peut-être oui, le FFM. Ben oui.
Ouais, voilà. Puis ça nous a laissé des beaux souvenirs.
Ben
ça.
Oui.
Il y avait une sorte de fébrilité, une effervescence. Je l'ai retrouvé là, dans ce festival-là à Sherbrooke. C'est très fréquenté. C'est la maison du cinéma. Il y a à peu près 15 salles là-dedans. Je sais pas combien au juste, mais il y a beaucoup de salles. Donc, il y a plein de films en même temps. Les gens vont voir différents films, ils en sortent, ils parlent, ils discutent. Là, on va au café, on va prendre un repas parce qu'on a un autre film une heure après. Tu sais, cette vie-là qui est une vie de relation, une vie... puis aussi, la formidable permission d'avoir accès à toutes les cultures qui viennent de partout dans le monde. Ça, moi, je trouve que c'est précieux. S'il y a un avantage au cinéma, c'est celui-là. C'est de pouvoir nous amener partout, sur la planète, dans d'autres réalités, et de nous faire entrer dans des réalités où souvent on se reconnaît. Bizarrement. Comme on dit, un bon film québécois qui parle de nous vraiment va rejoindre beaucoup
Absolument.
De gens sur la planète. À l'inverse, c'est vrai.
Ouais.
Voilà.
Pierre, quand je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai dit évidemment comédien, politicien, commentateur aussi à la radio. Est-ce que ça vous manque aujourd'hui quand vous regardez ce qui se passe au Québec, les questions linguistiques, les questions d'immigration? Est-ce que des fois ça vous tenterait de prendre un micro puis de dire « Mon Dieu, j'ai mon opinion, Pierre Curzi a son opinion » ou
« Oui ».
Oui.
Moi, je collectionne les ex et pour chaque ex que je suis, j'ai des regrets. Je regrette de plus être commentateur parce que j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais que après 6 ans, j'avais dit à peu près mon point de vue sur presque toutes les questions. Mais c'est pas vrai. De ce temps-ci, souvent, je me dis, oh boy, j'aimerais ça encore pouvoir commenter ce qui arrive non seulement dans l'actualité, mais les grands sujets qui nous préoccupent tous, là, comme Québécoises et Québécois. Et
qu'est-ce même, qui vous fait, qu'est-ce qui vous chicote en ce moment, Pierre? C'est la langue, c'est l'immigration, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient vous chercher au triple, hein?
Ouais, là, vous m'amenez sur un terrain dangereux. Ce qui, l'immigration,
non, y a rien de dangereux. Moi, je pense,
pas dangereux, parce qu'exprimer des opinions, maintenant, c'est devenu quelque chose qui peut être dangereux, mais, vous savez, mais non, ce qui me préoccupe, oui, la langue m'a toujours préoccupé, continue de me préoccuper. Cependant, je suis obligé de dire que, il y a des différences entre l'analyse que nous faisions, parce que j'avais une petite équipe, il y a de ça maintenant 15 ans, alors qu'on prévoyait exactement ce qui se passe à Montréal, c'est-à-dire l'omniprésence et le fait que la langue à Montréal, dans la région métropolitaine, a basculé vers l'anglais. On sait que la langue d'usage maintenant, malheureusement, je crois qu'elle est plus, c'est plus l'anglais que le français dans la grande région montréalaise. Il y a plusieurs raisons à ça, puis on les connaît, puis on pourra en discuter. Il y a ce qui me préoccupe aussi au niveau de la langue, c'est que le gouvernement actuel fait des efforts pour essayer de ramener la langue française comme l'étant la langue commune, mais je trouve que dans les efforts qui ont été faits, le gouvernement s'arrête au moment où il pourrait vraiment agir. Je l'ai vu avec la réforme de la loi 96 qui parlait entre autres des cégeps. On est allé avec certaines mesures qui vont avoir un effet progressif, mais on n'est pas allé jusqu'à dire qu'il faudrait que le cégep soit obligatoirement français pour les francophones et pour les allophones qui ont étudié en français au primaire et au secondaire. On s'est arrêté là. On s'arrête un petit peu à plusieurs égards. Par exemple, dans le financement des universités, il y a eu des mesures et tout à coup, ces mesures-là, on est revenu sur les mesures qui étaient pas très contraignantes et qui n'allaient pas changer la face du milieu universitaire. On a levé le droit, levé le point, puis oups, tout d'un coup, on l'a baissé. On n'est pas
Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça, Pierre? Parce que ce flambeau-là, vous l'avez porté, vous, et on a l'impression aujourd'hui, moi je lis par exemple le McLean's, le McLean's trouve que la loi 96 va trop loin, vous et moi, on trouve que la loi 96 va pas assez loin. Comment ça se fait qu'au Québec, on est si, que le gouvernement de la CAQ est si peureux? Ils ont peur de quoi, d'après vous, à la CAQ?
Normalement, tout gouvernement a peur du la réaction de ses futures électrices et électeurs. Il y a certainement un réflexe. Puis il y a une sorte d'habitude en politique depuis très longtemps qui est l'habitude de la modération. On est modéré. On veut mélanger la chèvre et le chou. Et moi, je pense qu'il y a des situations où, malheureusement, il faut être radical. Et dans le cas de la langue, ou dans d'autres cas, je pense qu'il faut aller vers un certain radicalisme. On devrait avoir le courage d'aller, selon nos convictions, au bout de nos convictions, parce que sinon, ça ne changera pas. Ou ça va changer si peu que ça ne fera pas de différence.
Alors, est-ce que je peux résumer votre pensée, Pierre, en disant que vous souhaiteriez que la CAQ et François Legault soient plus radicales dans leur lutte pour le français?
Je trouve qu'ils ne sont pas allés assez loin dans les mesures qu'ils ont visiblement proposées. Et s'ils les ont proposées, c'est qu'ils y ont réfléchi à ces mesures-là et qu'ils savaient qu'ils auraient pu ou dû aller plus loin. Puis ils n'ont pas eu le courage de le faire pour des considérations que je pourrais comprendre comme ex-politicien. Tu sais, on veut pas heurter les gens. Et il faut voir la réaction invraisemblable. La réaction face aux universités anglophones, là, les mesures qui étaient demandées par le gouvernement, c'était un tollé, même chez des gens qui sont très proches de moi, des francophones, des gens intelligents.
Ça vous a
surpris? Ils ont beaucoup de difficultés à prendre la justesse de ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre dans le système universitaire. Et ça veut pas dire que j'haïs McGill ou Concordia, non, je les haïs pas, mais il faudrait qu'on rétablisse un équilibre pour que l'Université du Québec et l'université publique francophone retrouvent une place adéquate, tu sais, sinon prioritaire, au moins égalitaire. Tu sais, on devrait aller vers quelque chose qui a plus de bon sens.
Absolument. Mais Pierre, je vois que vous n'avez strictement rien perdu de votre verve, de votre fougue, de votre passion d'ex-politicien et d'ex-commentateur, mais certainement pas un ex-fougueux. J'adore ça, je vous embrasse très fort. Pierre Curzi, je rappelle que vous êtes président du jury de la compétition internationale du Festival du cinéma du monde de Sherbrooke. On encourage tout le monde à aller faire un tour.
Ça se déroule donc à pas manquer pour les gens de la région, mais même d'ailleurs.
Oui, il y a des films que
les gens de Montréal ne verront même pas au Beaubien ou dans l'autre cinéma qui présente des films différents.
Alors, voilà. Venez. Du 9 au 14 avril, vous êtes vraiment un excellent ambassadeur. Merci beaucoup, Pierre.
Merci. Au revoir.
Sophie Durocher.
Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
Si vous souffrez de migraines ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de migraines, ne manquez surtout pas les prochaines minutes parce qu'Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition, va nous parler de migraines, mais aussi de la façon dont on peut éventuellement les diminuer ou enfin en prendre soin par le biais de l'alimentation. Que l'alimentation soit notre premier médicament, c'était qui disait ça? Hippocrate.
Mais c'est vrai, le pouvoir de la nutrition, c'est fou, mais en lien avec les migraines qui affectent tellement la qualité de vie. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont des migraines chroniques. Ça veut dire plus de, c'est 1 à 2% de la population, mais plus de 14 migraines par mois. C'est énorme, Sophie, parce que souvent, ils doivent s'absenter du travail.
C'est très handicapant, très débilitant.
Absolument, absolument. Puis souvent, on me dit, ben c'est quoi la différence entre migraine et maux de tête? Je sais pas si tu as des maux de tête, toi, ou des migraines.
Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Je cause des maux de tête à bien des gens, mais j'en ai jamais.
Ça, c'est pas pareil. Écoute, la distinction, c'est quoi? C'est que la migraine, c'est beaucoup plus intense. C'est vraiment localisé d'un côté de la tête. Ah. Souvent, quand on dit « Ah, j'ai mal à la tête », c'est vraiment une douleur qui est diffuse, un petit peu partout dans la tête. La migraine, c'est vraiment comme un seul côté, plus intense. Ça vient vraiment avec une intolérance au bruit quand les sons sont forts, à la lumière. On doit vraiment se mettre dans le noir. Ça peut durer de 4 heures à 72 heures. Fait que c'est beaucoup plus long qu'un maux de tête qu'on prend un Advil puis on est bien là quelques heures après. Donc, plus intense puis que ça dure beaucoup plus longtemps. Puis au niveau des déclencheurs, ben pourquoi les femmes en souffrent plus? Parce qu'on parle de 25 % des femmes qui ont des migraines versus 8 % des hommes. Les hormones, encore une fois. Les variations hormonales.
Petites hormones.
Maudites hormones, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit manger ou ne pas... Enfin, doit. Toi, tu n'es jamais dans le « on doit ». Qu'est-ce que tu suggères qu'on mange ou qu'on ne mange pas pour faire face à ce fléau? Parce que moi, j'en ai une copine là, que j'adore et qui va se reconnaître. On est parti à un moment donné à New York 3 jours, à passer quasiment les 3 jours au complet couché dans sa chambre d'hôtel. Il n'y avait rien à faire. Dans le noir, là, à souffrir. Oui. Pauvre chouette.
C'est très, très, très souffrant. En fait, la première chose, c'est vraiment de tenir un journal de ce qu'on mange en lien avec les symptômes. Et il y a des modèles de journaux alimentaires. Oui, ça, c'est vraiment une bonne idée, Sophie, parce qu'on a tous une réaction différente à certaines composantes dans les aliments. Puis souvent, c'est difficile de vraiment dire à quoi je réagis exactement. Parce que là, on va parler des éléments déclencheurs, mais il faut quand même personnaliser. Donc, sur Migraine Québec, sur le site de Migraine Québec, on peut télécharger un journal, on inscrit ce qu'on mange et ses symptômes. Donc, à partir du moment où j'ai une migraine, je me dis « OK ». Qu'est-ce que j'ai mangé dans la journée? Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Et qu'est-ce qui a pu précipiter les symptômes? D'accord. Ensuite, ben, il y a quand même des éléments qui sont assez courants là, comme éléments déclencheurs. D'abord, le vin rouge plus que les vins blancs. Ensuite, les aliments qui contiennent de la tyramine, qui est un dérivé d'un acide aminé, la tyrosine. Puis ça, c'est souvent les fromages vieillis, le saumon fumé. Ouais, ça, c'est des grands déclencheurs.
Tout ce qui est bon dans la vie. Le vin rouge, tout le roquefort, le saumon fumé, bon. Donc, la vie,
choses, effectivement,
le bonheur redonne des migraines. Le bonheur donne des migraines, toi.
C'est vrai que c'est des bons aliments, puis j'ai pas fini d'en nommer des bons aliments qui donnent des migraines parce que le chocolat, la caféine en font partie aussi. Mais la tyramine, ça va faire, ça va comme une vasoconstriction des vaisseaux au niveau du cerveau. Puis c'est ça qui peut donner là certaines tensions au niveau de la tête. Fait que tout ce qui est fermenté, je pense aux sauces soya, vieilli, on a parlé, fait que des bons cheddar là, vieilli 36 mois, plus c'est vieilli, plus on a de la tyramine et plus ça peut être un déclencheur de migraines. Saumon fumé, on l'a mentionné. Des aliments fermentés comme le tempeh, comme le miso, ça peut déclencher des migraines aussi. Ensuite, les nitrites et les nitrates qu'on trouve dans les charcuteries.
Et voilà.
On sait que c'est associé au cancer, mais ça peut être associé aux migraines aussi.
D'accord. Mais est-ce que, excuse-moi de te poser la question, si on prend de la bonne charcuterie bio, est-ce qu'il y a quand même des nitrites et des nitrates dedans ou pas?
Très, très bonne question. En fait, il faut lire la liste d'ingrédients. Ah. Si je vois sans nitrites artificiels, mais que dans la liste d'ingrédients, j'ai sel de céleri de culture, ça veut dire que il y a des nitrates qui sont ajoutés comme conservateurs. Et ça aussi, ça peut causer des migraines. Donc, on va se tourner vers des charcuteries vraiment, vraiment naturelles. Il y en a de plus en plus sur le marché.
Ben oui.
Où on va utiliser des extraits de fruits et d'épices comme conservateurs, beaucoup mieux que les nitrates issus de sel, de céleri, de culture et de nitrites. Puis dans ce cas-là, Sophie, ça sera un bon choix. Puis effectivement, souvent, les charcuteries biologiques sont, je pense aux viandes, les viandes biologiques de Charlevoix, ben on n'a pas de nitrates,
on n'a pas
de nitrites.
Oui, c'est ça que je cherchais. Mais je cherchais aussi, tu vois, Rental, hein, c'est ça, c'est les viandes et charcuteries biologiques. Je cherchais la référence R-H-E-I-N-T-L. J'ai pas de part dans la compagnie. Oui. C'est juste parce que moi, avec mon panier Lufa, j'en commande. Et honnêtement, leur jambon, leur truc. Parce que moi, je peux pas me passer de jambon. C'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles quand j'étais végé. Oui. C'est je m'ennuyais du jambon, mais je m'ennuyais des petites cuisses de poulet. Bon.
Bon, ben c'est vrai que c'est bon le jambon, mais un beau jambon comme celui-là, là, ben absolument. Il y a aussi le MSG, le glutamate monosodique, tu sais, fameux syndrome du restaurant chinois, là, la migraine qui est reliée au restaurant chinois, ben ça, du glutamate monosodique qui est un rehausseur de goût. Il y a des gens qui ont une hypersensibilité au glutamate, qui est un additif qui est approuvé par Santé Canada, mais ça peut provoquer des migraines. Il y a la caféine, bon évidemment dans le café, le thé, le chocolat, qui peut provoquer des migraines. Donc, on suggère pas plus de 2 cafés par jour pour les personnes migraineuses.
Mais qui et prend plus de 2 cafés par jour? Il y a vraiment des gens qui boivent plus que 2 cafés par jour?
Ben oui, moi j'en prends 3. Yes, je suis pas parfaite, j'en prends 3.
En prends
3?
Ben
oui, j'adore le café. Moi,
t'es pas comme ça, là? T'es pas comme, mon Dieu, je m'appelle Isabelle, non? T'es chanceuse.
Écoute, je suis tellement habituée à la caféine. J'en prends 2 le matin, puis je prends un autre latte vers 10h30, puis j'arrête ensuite. Puis l'après-midi, je prends un matcha en plus. Fait que qu'il y a de la théine, hein? C'est pas de la caféine, mais moi, je suis très, très, très café.
T'es chanceuse.
J'adore ça.
On va se quitter là-dessus, Isabelle.
Oui.
Donc, on va faire attention à tous ces aliments-là, où on va recommander, en tout cas, à nos copains et nos copines, les gens qu'on aime, qui souffrent de migraines, d'y aller très, très, très mollo. Mais j'adore l'idée du journal, pour garder un petit œil là-dessus, puis savoir action-réaction. As-tu connu ça quand tu étais jeune, toi? Action-réaction, ben oui. Bon,
action-réaction, j'adore ça. Mais faut pas oublier qu'il y a d'autres ressources, des groupes de support sur Migraine Québec. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour les gens, là. Fait que,
d'accord. Merci, ma belle Isabelle. Parfait.
Merci.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Hier soir, ben c'est elle qui a crié « Sortez-moi d'ici », Patricia Paquin. Bonjour, Patricia.
Allô, Sophie.
Comment? Hé, t'es dans ton char?
Ben oui. Conciliation travail-famille.
Mais j'adore ça.
Ma fille est...
C'est super gentil d'avoir pris le temps de me parler en tant que co-ex-campeuse de Sortez-moi d'ici. Patricia, quand tu as regardé l'émission hier soir et que tu as revu, parce qu'on a évidemment, on t'a vu sortir, mais on a revu tous tes meilleurs moments et les pires moments. Comment tu as regardé ça dans ton salon avec ta famille?
Ben, ce qui est le fun, c'est que les meilleurs moments et les pires moments, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que... Non, mais ça reste un dépassement, Sophie. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est confrontant, mais en même temps, on l'a fait. On a participé à quelque chose de plus grand que nous, dans le sens que ça reste que c'est juste une émission de télé-réalité. Oui. On révolutionne pas le monde, là. Mais... quand même, c'est toute une expérience de vie.
Ouais. Alors, évidemment, tout le monde se souvient, puis chaque fois maintenant qu'il y a des articles de journaux qui parlent de « Sortez-moi d'ici », on voit ton beau visage terrorisé, en train de hurler à cause du bac rempli de serpents. J'étais sur place, puis avec Phil, notre job, c'était évidemment de te libérer. Et je te jure, Patricia, je t'entends encore hurler dans mes oreilles. Parce que c'était un cri... de peur, mais d'angoisse. Est-ce que plusieurs mois plus tard, parce que ça a été tourné en juillet 2023, est-ce que tu es arrivé à te réconcilier avec ce moment-là de ta vie ou ça te crée encore une petite angoisse?
Ben, ça me crée pas d'angoisse comme telle, là, tu sais. J'ai pas fait de cauchemar, tout ça. Mais c'est sûr que je crois vraiment avoir développé, quelque chose avec les serpents qui est encore plus gros. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, il y en a qui disent confronte tes peurs, ça va un petit peu dédramatiser, puis ça va, non, moi, au contraire, tu sais, l'été dernier, je me rappelle avoir, quand je courais dehors, tout ça, avoir croisé une couleuvre, puis elle et moi, on a eu peur, c'est-à-dire que moi, j'ai comme pépé comme si je faisais une danse carrée, puis la couleuvre, elle a comme fait oh, « qu'est-ce qui se passe? » Puis ça m'a... j'étais troublée, là, j'ai vraiment eu peur.
Ouais. Alors, il y a ma collègue Stéphanie Villeneuve qui me faisait remarquer quelque chose parce qu'elle le regarde évidemment comme spectatrice. Ouais. Et elle disait, on n'a pas la même notion de temps que vous. Et je lui expliquais à Stéphanie, je disais, c'est vrai parce que vous regardez ça le dimanche soir, ça paraît vite parce que c'est une heure, t'enlèves les publicités, il reste 45 minutes. Mais donc, peut-être que toi, Patricia, ton passage là-bas n'a pas été si long que ça, mais chaque heure que t'as passé là-bas, c'était intense. Donc, même si c'est seulement quelques jours, ce sont des journées extrêmement exténuantes.
Je pense qu'il y a juste toi qui m'as posé cette question-là. Merci Stéphanie, que je recroiserai un jour peut-être sur un podium. Mais je referme la parenthèse. C'est vrai que le temps a aucun sens là-bas. Les journées durent des jours. Alors, on est exténué parce qu'on se couche tard le soir. Les galas sont très tard le soir. Moi, je me rappelle, Sophie, quand je suis arrivée au camp là, la première fois, il était rendu dépassé minuit, le temps de s'endormir. Puis là, moi, j'arrive. Fait que je suis comme sur une autre planète. Puis là, Philippe me faisait rire, Dave me faisait rire. Puis qu'est-ce qu'on entend derrière? Chut! Tu te rappelles, tu sais, là, arrêtez de parler, on veut dormir.
Non, mais j'ai sacré un petit peu, mais t'es gentil de le rappeler parce que vu qu'ils l'ont pas gardé au montage, c'était pas censé en parler, mais non, mais c'est drôle. Non, mais j'ai sacré, puis j'ai dit, tabarnouche, on peut-tu dormir, s'il vous plaît? Mais parce qu'on est exténué, les gens se rendent pas compte, c'est qu'on mange la chenoute. On mange de la chenoute en petite quantité. On est écrasé par la chaleur, écrasé par les moustiques, écrasé par quand même les épreuves, les défis, puis tout ça. Fait qu'on est tous à fleur de peau.
Oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est drôle. On riait, tu sais, puis le lendemain, mais t'sais, tout le monde qui est dans la jungle, pour moi, vous allez tous, tu sais, quand je vais vous recroiser, je vais juste avoir le goût de vous prendre tout le temps dans mes bras.
C'est vrai. Ça, c'est très particulier, puis j'aimerais ça qu'on en parle, Patricia, parce que quand on s'est revus, tu nous as très gentiment reçus chez toi, tous les campeurs, au moment où c'était même pas encore divulgué, hein, les gens ne savaient même pas encore quels étaient les noms des campeurs. Tu nous as reçus chez toi avec énormément de générosité et d'empathie, et je me souviendrai tout le temps. On s'est rencontrés toute la bande avec Alexandre. Jean-Philippe pouvait pas être là cette journée-là, et on se regardait entre nous. Et Louis-François, ton chum, était là et je le regardais, nous regarder, puis c'était comme, nous, on le regardait un peu comme un extraterrestre, genre, toi, t'es gentil, on t'aime, puis tu fais bien à manger, mais t'as pas vécu ce que nous, on a vécu. On a comme une connexion qui se fait instantanément qu'on ne peut pas, moi, je peux pas l'expliquer à Richard, ce qui s'est passé là.
Non, puis pour ma part, là, l'aventure nous dira pour la tienne, mais pour ma part, là, même si j'ai pas été là longtemps, moi, j'ai réussi, ma famille était en vacances aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai réussi à trouver un vol, j'étais allée les rejoindre. Fait que même si j'étais avec ma famille, que c'était les vacances, j'étais encore au Panama. Ma tête était, je comprenais rien. Ça a pris des jours avant de me redéposer puis de comprendre ce que j'étais en train de vivre, là.
Ouais. Quand tu regardes ce que t'as vécu, qui était plus court peut-être, mais excessivement intense, qu'est-ce que c'est allé chercher chez toi que tu ne pensais pas que t'avais?
Je sais pas, parce que quand on est dedans, on réalise pas, mais c'est sûr que toute cette espèce de trip de gang, mais content à la fois, puis ça, ben qu'est-ce que tu veux, tu le vis quand tu vis des moments dramatiques ou des moments, mais alors que nous, on s'amuse en même temps, on joue, ben, c'est comme, c'est vraiment bizarre. Moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète pendant X temps. Là, ça n'avait pas de sens.
Ouais. Et je pourrais toujours dire qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai partagé de la poudre blanche avec Patricia Paquin. Et ça n'était pas de la cocaïne, mesdames et messieurs.
Non. La farine.
La farine, c'est pas pareil. Écoute, ça a été merveilleux de partager ces moments-là avec toi, Patricia. Et écoute, le mystère restera entier jusqu'à la fin de l'aventure pour le reste des choses. Exactement. Petit clin d'œil ici.
Excuse-moi, Sophie, tu sais, les gens pensaient que Seb Toutant se rendrait super loin parce que l'Olympien, puis pas froid aux yeux, tout ça. Fait que, tu sais,
ça a rien
tout
à voir. Tout
voilà.
Peut arriver, absolument. Je t'embrasse très fort et on va toujours garder tous les campeurs cette connexion spéciale parce qu'on a vécu sur une autre planète quand même pendant quelques semaines, quelques jours. Merci beaucoup, Patricia. Écoute, y avait-tu quelque chose que tu voulais plugger? Parce que j'aime toujours ça de donner la parole pour plugger quelque... Ah, mais ton spectacle avec ton ex, quand est-ce que ça commence, hein?
Je commence le rodage le 1er mai. Fait que là, on commence à arriver au fil d'arrivée. C'est-à-dire qu'après ça, on se redonnera rendez-vous pour grande première à Montréal à l'automne. Mais je remonte bientôt sur les planches.
Très bientôt. Et puis, ça va être super bon. En tout cas, les publicités avec ton petit doigt levé sont absolument hilarantes. Merci beaucoup, ma belle Patricia. Oui, le petit doigt. Ah, OK, d'accord. Bye, merci Patricia Paquin.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Tout un dossier. Dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, tout un dossier sur plus de 2 millions de Québécois qui n'ont toujours pas de médecin de famille. On va parler de tout ça avec Karine Gagnon, qui est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, notre collègue Éric-Yvan Lemay, qui témoignait que sa fille a failli avoir des séquelles absolument énormes parce que n'ayant pas de médecin de famille, c'est la chiro de sa fille qui a dit « il y a quelque chose qui va pas avec ta fille ». Quand on lit le genre d'histoire que notre collègue M. Lemay raconte, ça donne froid dans le dos, Karine.
Oh, absolument, Sophie, ça donne froid dans le dos. Et puis, c'est démontré hein, que quand il n'y a pas de médecin de famille, les gens vont plus se présenter à l'urgence, vont plus avoir des complications, des problèmes de santé, parce qu'évidemment, il n'y a pas de suivi. Alors, c'est ce que ça donne. Et on le sait, hein, on a à peu près tous des proches qui n'ont plus ou qui n'ont pas ou plus de médecin de famille, parce qu'à mesure qu'ils partent dans le privé ou qu'ils prennent leur retraite, ben les gens les perdent. Hein. On a tous de ces cas-là vécu. Et on voit à quel point c'est difficile après d'avoir un suivi. Puis, tu sais, quand on a une vérification par un médecin de famille, admettons une fois par année, une fois aux deux ans, dépendamment de notre état de santé, ben si on a un problème, il va être en mesure de le détecter. Je sais pas si on fait, je te donne un exemple du diabète, si on a un début de cancer du sein. Oui. Tu sais, il y a plein d'exemples comme ça qu'on se dit, ben s'il y a pas de suivi, il y a plus de risques que ça passe sous le radar, qu'on s'en rende pas compte, qu'on sache pas, puis qu'on ait des complications plus graves. Alors, tu sais, c'est un servicieux finalement, parce que notre système est pas gagnant à ce qu'on n'ait pas de suivi régulier. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent pas. Écoute, Sophie, je lisais là sur la liste d'attente pendant 3, 5 et 7 ans même avant d'avoir un médecin de famille. C'est épouvantable.
Absolument incroyable. Richard Martineau, mon conjoint, raconte ce matin dans le journal que on a un ami commun qui n'a pas de médecin de famille. Il est lui-même médecin. Il n'arrive pas à avoir de médecin de famille. Il est sur la liste. Alors, il y a un certain nombre de choses. Il est capable de s'auto-diagnostiquer, de faire des trucs, mais il y a un certain nombre de choses. Il est quand même pas pour se faire un examen rectal à lui-même, là. Je veux dire, il y a
toujours... Non, c'est ça, ça lui prend. Ben c'est là, ça, ça lui prend à lui aussi un médecin de famille. Là. Donc, c'est il des gens de tous les horizons. Oui, ben
absolument. Absolument. Alors, la question qui se pose, c'est comment la CAQ va arriver à faire bouger le paquebot suffisamment pour remettre le système de santé sur les rails?
Ah, et comment il va y arriver d'ici les prochaines élections? C'est demain matin, tant que moi. Tu sais, on dit 2 ans et demi, c'est une éternité en politique. Oui, mais pour revirer un système de santé qui a les problèmes actuels, là, c'est très court comme laps de temps. Et ben là, ils ont instauré, tu sais, le guichet là, auquel tu peux appeler quand tu as besoin de voir un médecin, que tu n'as pas de médecin de famille. Chez nous, on a expérimenté ça cet hiver, là, tout récemment. Je te dirais que c'est pas vraiment évident là d'avoir accès. Puis il y a des gens qui le racontent dans le dossier. C'est tellement pas facile en fait d'avoir accès à un médecin avec ce service-là qu'il y a des gens qui se tournent vers le privé qui vont payer et puis parfois qui ont la mauvaise surprise, comme on a un témoignage, un monsieur là qui a dû se faire changer un pansement, savait pas qu'il y aurait des frais. Tu sais, c'est pas tous les gens qui en ont plus les moyens. En fait, c'est la majorité des gens qui ont pas les moyens de s'offrir des services privés. Puis c'est le principe aussi, c'est qu'on dit qu'on a un système de santé public. Tu sais, j'ai une sœur qui vient en Australie, le système de santé il est pas public. Mais ils s'attendent à ça, il y a des désagréments liés à ça, puis il y a beaucoup de gens, on le voit aux États-Unis aussi là, qui ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. C'est une catastrophe. Mais là, à partir du moment où on prélève sur nos impôts des sommes quand même assez importantes, puis qu'on dit vous avez un système de santé public, ben le fait qu'on n'est pas capable d'y répondre puis de tenir cet engagement là, il y a un problème là aussi. Mais tu sais, je te parlais du guichet là où il faut appeler. Écoute, la fin de semaine, tu sais, on choisit pas c'est quand on est malade, hein. Puis on dirait que ça fait toujours exprès.
Ça marche pas souvent... la fin de semaine? Le guichet n'est pas ouvert la fin de semaine?
Ben c'est ouvert, mais c'est épouvantable. Là, faut que t'appelles 1000 fois, il y a jamais de disponibilité. Finalement, tu réussis peut-être. Nous autres, c'est ça qui est arrivé, à avoir une place le lundi matin, mais ça fait 3 jours que tu souffres. Puis tu sais, moi là, Sophie, là-dedans, là, je me dis, moi, j'ai plus de petits bébés ou de petits enfants. Mais les parents, là, où je compatis, oui, parce que je me souviens à quel point, on le sait, là, quand on a eu des enfants, ils sont malades souvent, ils attrapent tout. Puis là, nous, on attrape tout parce qu'eux attrapent tout. Alors, c'est un servicieux. Puis là, tu sais, d'avoir ton enfant qui dort pas, t'es obligé de te lever pour chercher un médecin. Quand t'as pas de médecin de famille, hey, c'est un enfer. Là, ça, là, c'est comme d'être pris en otage, finalement, dans un système qui fonctionne pas, pour lequel on paye, auquel on devrait avoir accès, mais qui continue de pas fonctionner. Puis on dirait que ça s'améliore pas du tout, alors qu'on avait fait à la CAQ de grandes promesses. Alors,
oui,
tu vois,
ça fait
partie des promesses qu'on n'est pas capable de tenir présentement.
Alors, moi, j'ai un médecin de famille. Je me considère excessivement chanceuse, mais mon fils n'en a pas. Il y avait une femme médecin, mais elle est partie faire carrière à la télévision. Imagine-toi donc. Alors, ce matin, j'ai appelé le 811 pour rentrer dans la patente là, de guichet, machin, gus, puis tout ça. J'ai parlé à quelqu'un très gentil qui m'a dit, ben, on va vous envoyer un courriel ou vous rappeler. Là, il est 4h de l'après-midi, j'ai toujours pas de nouvelles.
Non, non, faut pas être pressé, là. Je te confirme qu'il faut pas être pressé.
Prendre ma patience. En tout cas, bref. Je vous tiendrai au courant dans 8 ans à peu près quand finalement on va avoir une réponse de la part du 811. Merci beaucoup Karine Gagnon, merci d'être venue nous parler de tout ça, puis excellent dossier à nos collègues. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Maximile Sayeux à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup à vous d'avoir été là et de continuer à nous écouter et à nous regarder à Cube. Merci et à demain. Cube.